jour.
C'est le début d'une série de messages. Je ne vais pas en faire 36, rassurez-vous, mais je vais donner une série de messages par rapport à la gloire de Dieu. Parce que je crois que l'une des aspirations peut-être secrètes du cœur des chrétiens, et qui est peut-être en a mis de côté au frigidaire, peut-être pire au frigidaire qu'on a enterré, c'est cette aspiration du cœur à vivre, voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et ça, je crois que ça mérite vraiment qu'on l'approfondisse. Et aujourd'hui, c'est récemment posé déjà une première pierre par rapport à cette aspiration, par rapport au message que je vais donner aujourd'hui, qui est un message sur le corps. Pas le corps de Christ, mais ton corps, mon corps, notre corps physique. Parce qu'il y a un lien entre le corps physique et la gloire de Dieu, qui est parfois ignoré. Alors je voudrais qu'on prie. Seigneur, tu vois, nous avons besoin de ton assistance, l'assistance du Saint-Esprit, pour répandre sur nous un esprit de révélation, de connaissance. Parce que tu as dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, que nous devons prier pour recevoir un esprit de révélation, de connaissance, afin de connaître le Père. Tu vois, Seigneur, Paul était déjà chrétien, il parlait à des chrétiens, et il parlait qu'ils avaient déjà été baptisés de l'Esprit, ils avaient reçu Christ, et pourtant ils avaient encore besoin d'un esprit de connaissance et de révélation pour connaître, un esprit de sagesse et de révélation, de connaissance pour connaître le Père. Ça fait partie de la prière de Paul aux Éphésiens, les premiers versets. Alors moi je te demande, Seigneur, que tu fasses un petit opérer un déclic dans nos cœurs et que quelque chose de neuf se produise. Au nom de Jésus, Père. Merci, cher Saint-Esprit, de nous conduire. Alors il va devoir me conduire d'autant plus que j'ai oublié mes notes à la maison. Je les ai mis dans ma grosse Bible, je voulais prendre ma grosse Bible. Je me suis dit, et puis à la fin, je ne sais plus quoi, il s'est passé un truc avec Jacqueline on a changé certaines choses pratiques, et puis j'ai oublié ma Bible, ma grosse Bible, dans laquelle se trouvaient toutes mes notes. Alors, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave, parce que au moins, je vais dépendre étroitement du Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux, non? Voilà. Amen. 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 Alors, moi, je vous invite à lire le texte. Je voudrais vous aider à lire un texte avec un nouveau regard, parce qu'on le connaît bien tous, et le souci, c'est que nous avons classé les choses d'après nos anciennes connaissances et nous avons continuellement besoin d'un esprit de révélation pour redécouvrir les choses élémentaires de Dieu. Pour nous, on croit connaître notre ABCD et parfois on se rend compte que dans la pratique, on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le pratique pas vraiment. Parce que ce qu'on connaît vraiment, on le pratique réellement. On ne pratique que ce qu'on connaît réellement. Et il y a des bases que nous connaissons, que nous croyons connaître, mais que nous ne pratiquons pas en réalité. Alors, je voudrais vous conduire dans l'Épître Romains, chapitre 12. Et c'est l'apôtre Paul, donc, qui s'exprime, là, vous le savez. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, la Bible dit raisonnable, d'autres Bibles disent spirituel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Voilà. Et là? Alors, j'entends parfois des choses assez parfois me dérangent un peu, où je me dis, mince, mais j'ai envie de parler à ces gens-là, ils n'ont rien compris. Parce que nous sommes souvent en train d'évaluer les cultes du dimanche que nous vivons ici en disant « Ah, c'était un culte béni, ah, c'était un culte plat, ah, il y avait l'onction, ah, il n'y avait pas l'onction, et ceci, et cela, etc. » Moi, je rigole quand j'entends ça parce que, vous savez, tout dépend beaucoup de l'état dans lequel nous sommes personnellement quand nous allons quelque part. Hein, ah, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de guérison, ah, il n'y a pas eu de prophétie, donc c'est un culte plat. Alors moi, je ne crache pas sur les dons hein, qui se manifestent. Au contraire, je suis très amateur. Mais, beaucoup de choses dépendent de l'état d'esprit dans lequel je viens et de mon état intérieur et de mon positionnement. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite il y a longtemps, hein, quand j'avais eu mon problème cardiaque à mes 40 ans. C'était en 90, hein, je crois. Eh bien, j'ai eu du mal à remonter la pente, hein, c'était quand même, j'avais quand même pris un sérieux jeton. Dieu soit loué, heureusement que Dieu m'a guéri et que je n'ai plus jamais eu à prendre de quoi que ce soit comme médicament. Vraiment, j'ai un très bon rythme cardiaque et mon cœur est en parfait état, Dieu soit loué, parce que sinon j'aurais même pas pu passer l'opération que j'ai passée en 2012. Mais alors, j'étais allé un jour, je devais apporter la prédication à Strasbourg, dans l'église d'Agapé de Strasbourg. Et puis, le Seigneur, vous savez dans quel état j'y allais. J'y allais vraiment avec un esprit de sacrifice et par obéissance, parce que si je m'étais écouté, je serais resté chez moi. Resté ici. Et puis, je vais là-bas. Et pendant la louange, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. J'ai dû regarder en haut pour voir ce qui se passait, parce que le plafond était très haut. Il y avait des grosses gouttes chaudes qui me tombaient. Une sur la tête, une sur les mains, une sur le corps, etc. Aux premières gouttes, j'ai regardé, tiens, il y a quelque chose qui fuit là-haut. Mais il n'y avait rien, vous savez, il n'y avait pas d'étage au-dessus. C'est un toit en verre. Un toit en verre avec des bois et des vitraux. Alors, je me suis assuré que les autres à côté de moi étaient mouillés aussi, mais personne n'était mouillé. Il n'y avait que moi qui vivais ça. Et c'était extraordinaire. Et chaque goutte qui tombait me faisait un bien. Ça m'a... Ah, l'effet que ça faisait sur mon... Pas seulement sur mon corps, mais sur mon être. Ça amenait une guérison, un apaisement, un bien-être absolu. À la fin, quand le culte est terminé, j'ai demandé aux autres, comment vous avez trouvé le culte? Bon, ah, moi, je l'ai trouvé super, ils m'ont regardé comme ça. Moi, je l'ai trouvé super, j'ai dit. Elles me disent, ah bon? Ben oui, moi, j'ai été visité par l'Esprit de Dieu. Ah ben, pas nous. Alors, voyez, c'est très aléatoire, ce qui peut être vécu et ressenti. Beaucoup de choses se produisent en fonction de ce que nous vivons, nous, dans notre intérieur et nos besoins profonds. Dieu nous connaît. Et c'est comment nous visiter. Par contre, je me rappelle, un jour, c'était en 2002, quand il y a eu la fameuse division chez nous. J'étais tellement mal au début que j'ai dit, un jour, je vais me faire du bien, je vais aller dans une autre église. Et là, j'étais tellement amer, tellement rivé sur moi-même, que c'était une église réputée pour avoir une bonne onction. Ben, j'ai rien vécu du tout, j'étais sec, que du début à la fin, puis les autres à côté de moi étaient bénis, étaient visités. Alors, vous voyez que il faut faire très attention de pas vouloir généraliser à partir de notre propre vécu, de notre propre expérience. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est présent dans toutes les églises. Il peut y avoir des manifestations différentes de la présence de Dieu, mais Dieu est présent chaque fois. Et il se manifestera d'une façon ou d'une autre comme il lui plaît. C'est pas nous qui commandons, c'est lui qui commande. Alors nous avons décidé de dire un culte c'est bon, un culte est mauvais, un culte est passable, le culte est assez bien. Ça c'est notre évaluation à nous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense des cultes? Alors, c'est intéressant de voir ce que lui, il pense du culte que nous avons avec lui. Vous trouvez pas? Avoir son avis à lui. Ça vous intéresserait de savoir ce que Dieu pense du culte qu'il a avec vous? Ce qu'il ressent en votre présence? Nous aimons parler de ce que nous ressentons en sa présence. Et lui, qu'est-ce qu'il ressent en notre présence? Intéressant, non? De savoir. Ben, ce texte nous parle de ça. Il nous dit, alors ça m'a beaucoup intrigué, il y a un mot qui m'a beaucoup intrigué. C'est le mot raisonnable, ce qui est un culte raisonnable. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable, j'ai dit. Ça veut dire quoi ça? Alors, je suis toujours un grand curieux, je suis allé gratter un peu dans le grec, etc. Et j'ai cherché et j'ai trouvé le mot logikos. En français, on pense tout de suite à logique, n'est-ce pas? Mais alors, les commentateurs disaient que ce mot ne se réfère pas à quelque chose de liturgique ou de religieux, mais désigne une réaction de notre être, de notre âme, de notre intelligence, de notre raison à quelque chose. Autrement dit, Paul est en train de dire dans ce texte que c'est un culte qu'on devrait faire après réflexion, qu'on devrait avoir avec en réfléchissant, sachant ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est que nous lui offrons un corps, notre corps. Alors je dis purée, c'est quand même bizarre. Nous, on a l'habitude de dire, ce qui est important, c'est que nous t'offrions notre cœur. Pourquoi le corps? Pourquoi pas le cœur? Pourquoi est-ce que Dieu dit que le culte raisonnable, c'est pas de lui offrir un cœur sanctifié, un cœur plein de reconnaissance et de louange? Moi, je trouverais ça plus spirituel, personnellement. Ça me déçoit que Dieu me dise, d'ici dans ce texte, que le vrai sacrifice qu'il attend de nous, c'est qu'on offre notre corps. Il précise, d'abord, hein. Mais d'abord vivant. Bon. C'est quand même intéressant que c'est pas comme avec les victimes de l'Ancien Testament qu'on tuait, hein. Il mettait sur l'autel, c'est que lui, il veut un sacrifice vivant. D'ailleurs, j'aimerais faire remarquer que quand Jésus-Christ s'est offert, c'était tant qu'il était vivant. Une fois qu'il était mort, il ne pouvait plus rien, son corps il a remis son âme à son, il a dit au moment où il a expiré, je remets mon esprit entre tes mains. Et le corps, il est resté là. Mais l'offrande de son corps, c'était tant qu'il était vivant. Tant qu'il voulait faire quelque chose pour nous. Tant qu'il voulait obéir à Dieu. C'est là, c'est dans ce moment-là qu'il a offert son corps. Après, il y a le résultat. Hein, les soldats l'ont crucifié, ils l'ont torturé, ils l'ont flagellé, tout ça. Mais c'est ça, c'est le résultat de sa volonté d'offrir son corps. Quand je suis mort, je ne peux rien vous offrir, je suis désolé. Un corps vivant, un corps saint et un corps qui lui est agréable. C'est ça le culte raisonnable. Alors, il faut ne pas oublier, frères et sœurs, que notre corps, c'est ne nous appartient plus. Dieu en est le propriétaire, nous en sommes le gérant. Si on prend l'image d'un navire, eh bien, le navire, c'est ton corps. Tu as le droit de le piloter, c'est toi qui dois piloter ta vie, personne d'autre. Dieu ne va pas prendre les commandes à ta place, mais c'est lui qui est le capitaine et le propriétaire. Et il est important de savoir que le navire ne nous appartient plus. Et nous ne pouvons pas le diriger comme nous le voulons. Dieu nous laisse libre, nous laisse une certaine attitude, mais dans certaines situations, il nous demande d'être attentif à ses plans, à ses voies. Et de chercher d'être à l'écoute pour continuer à naviguer sans trop de danger. Parce que la mer est pleine de dangers. Nous avons vécu un cyclone. Et je peux vous dire, tous les magasins étaient fermés, aucun bus ne fonctionnait plus, etc. C'était assez impressionnant, tous les gens se tairaient. Puis nous, on se dit, on va voir pour la première fois de notre vie un cyclone chouette. Hein, mais il a fallu attendre que ce cyclone passe, quoi. Puis c'était assez impressionnant, là, le vent, la pluie et tout le reste. Hein. Heureusement que on l'a pas pris de plein fouet, sinon ça aurait pu être vraiment désastreux. Bon. Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit habite en permanence. Le Saint-Esprit est assez grand pour habiter tous nos corps en même temps. et les corps de tous les chrétiens qui ne sont pas dans cette église et les chrétiens du monde entier, le Saint-Esprit est assez grand et puissant pour habiter en même temps tout le monde. Hein? Il n'est pas tantôt chez moi, tantôt chez toi, tantôt chez le voisin, tantôt chez la voisine, tantôt dans une église, tantôt dans une autre. Non. Il est, il vit, et je crois, excusez-moi, mais je crois qu'on ne réalise pas correctement cela. Que le Saint-Esprit habite en permanence en nous. Sans quoi, nous fonctionnerions autrement. Si, je vais vous donner une preuve que nous ne le réalisons pas. Notre dialogue intérieur. Combien de temps dans une journée passons-nous à nous parler à nous-mêmes? Dans nos pensées. Ah oui, t'as vu ça? Ah oui, souviens-toi de ça? Ah oui, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. On est tout le temps en dialogue avec nous. Vrai ou faux? Vous allez me dire, c'est normal. Depuis notre naissance, nous avons appris à fonctionner comme ça, hein. Bon. Mais, et si on commutait ça en dialogue avec Dieu? Si ça devenait un dialogue, au lieu de te parler à toi-même, chaque fois, tu le commutes en parlant au Seigneur. Tiens, Seigneur, t'as vu? Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, et puis ceci, là, oula, Seigneur, je suis dans la crainte. Oh, Seigneur, dis-moi ce que tu penses. Oh, Seigneur, parle-moi. Je peux vous dire que si vous effectuez cela, beaucoup de choses changeraient dans votre vie. Un peu avant que je parte en vacances, j'avais donné un message où j'avais parlé de ça. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'avais déjà parlé d'autres reprises, mais ce jour-là, ma femme a salué à petite. Et elle s'est dit, tiens, maintenant je vais m'atteler, je vais vraiment faire ça. Et l'autre jour, il y a quelques nuits de ça, elle me dit, me réveille, elle me dit, c'est merveilleux. Je dis, qu'est-ce qui est merveilleux? Elle me dit, écoute, je vis quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Je dis, quoi? Elle me dit, écoute, tu peux pas savoir, depuis que je dialogue continuellement avec Jésus et avec le Saint-Esprit de tout ce qui se passe, etc., je me sens tellement bien, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Ah, j'ai dit, ça c'est formidable, effectivement. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que moi-même, j'ai pas pris suffisamment l'habitude de le faire tout le temps. Et puis là, elle m'a dépassé. Moi, je la dépasse en natation et elle m'a dépassé à ce niveau-là. Et j'étais content qu'elle me dépasse. J'ai dit, ouh là là, je vais essayer de la rattraper. Mais, frères et sœurs, c'est très 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 important. Parce que offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est de suivre les directives du Saint-Esprit quand elles arrivent. Ça peut se passer de manière tout à fait simple. On n'est pas des Jeanne d'Arc qui entendons des voix, mais le Saint-Esprit infuse sa pensée dans nos pensées. Et nous recevons des pensées nouvelles que parfois il faut tester. Mais les pensées qui viennent dans notre cœur, parfois viennent vraiment de lui, parce qu'on lui a parlé, on a prié. Et il ne faut pas négliger certaines pensées que nous recevons, mais il faut les vérifier. Et parfois, il faut les trier. Et parfois, il faut les mettre à la poubelle. Parce qu'elles ne sont pas conformes à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais, c'est la communication du Saint-Esprit est une infusion de sa pensée dans notre pensée. Paul dirait, comme l'Esprit témoigne à notre esprit, ou témoigne à notre conscience. Que nous sommes enfants de Dieu, etc. Le témoignage intérieur, quand nous recevons une pensée, que nous recevons cette approbation dans notre cœur. C'est bien ça la pensée de Dieu. Et on peut agir à partir de là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi c'est mon corps que je dois offrir? Et la pensée qui m'est venue était très simple et claire. Parce que sans ton corps, tu peux rien faire, Bruno. T'as beau avoir les meilleures intentions, tu peux avoir toutes les pensées du monde, tu peux vouloir me serrer, mais si t'as pas ton corps, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ah ben c'est vrai. Parce que le corps est l'outil que nous utilisons en permanence pour exprimer nos intentions, pour réaliser nos projets. Sans le corps, tu peux rien faire. On peut même pas faire, a fortiori, la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jésus lui-même, j'aime beaucoup ce texte de Hébreu, hein, où il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Jésus avait compris que si si Dieu lui avait demandé de s'incarner, d'accepter l'incarnation dans le sein de Marie, c'était pour faire sa volonté, un corps pour faire la volonté. Et il est dit, c'est en vertu de l'offrande de son corps que nous sommes sanctifiés. C'est pas l'offrande de son âme, c'est pas l'offrande de son esprit, c'est l'offrande de son corps, parce que c'est le corps qui a été meurtri, tué. Nous sommes sanctifiés par le corps. Et il a dit lui-même quelque chose de très important dans la prière sacerdotale, en Jean 17. Il a dit, je me sanctifie moi-même afin que ceci soit sanctifié. Autrement dit, le principe de la sanctification, Jésus, quand il a dit, je me sanctifie moi-même, ça voulait dire, il était déjà saint, mais il se gardait saint. Parce qu'il est la tête. Et la tête, à partir du moment où elle est sainte, tout le reste est saint. Vous connaissez le proverbe russe qui dit « Le poisson pourrit toujours par la tête. » Si la tête est pourrie, la pourriture du poisson commence par la tête. Et la sainteté également commence par la tête. Donc Jésus qui est la tête s'est sanctifié pour que le corps, le reste du corps soit sanctifié. Et vous connaissez, vous rappelez de l'histoire de Samson, et de sa maman, quand l'ange est apparu à sa aide, puis après à son mari, l'ange lui a dit, écoute, ne bois pas de vin, garde ton corps de telle nourriture, etc. Tout était axé sur le corps. Et parce que la maman de Samson a fait cela pour que son enfant soit consacré dès le sein de sa mère, son enfant avait une onction particulière, avec quelque chose de spécial, à cause de la consécration de la mère, quand elle l'a pris dans son sein. Autrement dit, cette consécration s'est manifestée par quelque chose dont elle devait s'abstenir au niveau de son corps. Et ça a eu un impact sur son corps à elle et sur le corps de son fils. Ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas envisager sérieusement la sanctification sans offrir notre corps en sacrifice. Ça veut dire quoi, offrir notre corps en sacrifice? Ça veut dire que certaines choses que tu entends, tu dois refuser de les entendre. Tu dis non à ton corps, tu dis non à tes oreilles. Certaines choses que tu dois pas voir, tu dis non à tes yeux. Certaines choses que tu dois dire, tu dois pas les dire. Tu dois pas dire, tu interdis à ta bouche de les dire. Seigneur, ça me coûte chaque fois un sacrifice, mais je me tairai, je n'irai rien. Seigneur, ça me coûte un sacrifice, mais je ne regarderai pas. Seigneur, ça me coûte un sacrifice, mais je n'écouterai pas. Je suis trop curieux de nature, mais Seigneur, oh, ça me ferait tellement, j'aurais tellement envie d'entendre ça, c'est tellement intéressant ce qu'elles disent, ou alors, ça me dit des choses que je voudrais savoir. Sacrifice du corps. Offrir son corps en sacrifice. Un corps vivant, saint et agréable à Dieu. Vous connaissez le passage d'Ésaïe 30, hein, qui montera. C'est la montagne levée de Dieu. Celui qui garde ses yeux, ses oreilles, etc., ses mains. Hein. Très important. Et pareil, ça c'est la consécration et la purification, c'est la même chose. La purification, c'est la même chose. On va dire que c'est notre esprit qui doit être purifié d'abord, et puis après notre âme. Théologiquement, ça a l'air juste. Maintenant, je voudrais vous rappeler l'histoire qui est arrivée à Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, quand Dieu lui est apparu sous son trône. Malheur à moi, mes lèvres sont impures. Les lèvres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Alors, on vous dirait, oui, mais c'est son âme qui est impure, puisqu'il a exprimé des choses impures avec ses lèvres. C'est l'âme qui devait être purifiée. Mais l'ange est venu, il est venu avec un tison ardent, il l'a posé sur ses lèvres et dit, voici ta bouche est purifiée. Non, mais enfin, le péché est venu de le cœur et de l'esprit, non? C'est l'esprit et le cœur qui devaient être purifiés. Pourquoi est-ce que l'ange purifie la bouche, les lèvres, le corps? La sanctification comme la purification, comme la consécration, c'est une histoire de, ça commence par le corps. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 6, il termine dans l'histoire où Paul dit de ne pas, tout m'est permis, tout mais tout n'est pas utile, je ne donnerai pas mon corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Il dit pas quoi, glorifiez Dieu dans votre esprit, dans votre corps. Il dit, glorifiez donc le Seigneur dans votre corps et votre esprit. Parce que chaque fois que tu pèches, tu laisses une marque de ton péché, même si c'est ton âme qui a péché sur ton corps. Pourquoi est-ce que le corps doit être purifié, sanctifié? Parce que c'est lui qui est destiné à hériter l'incorruptibilité et à revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. C'est pas ton âme. Ton âme va partir à ta mort. Mais la résurrection des corps, eh bien, ce sera ton corps qui revêtra, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, le dernier verset du verset 2, hein, il dira, c'est notre corps qui doit revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Je crois que c'est 1 Corinthiens 15, 56. Alors ça, l'importance du corps. L'importance du corps. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui est maintenant, que je n'ai jamais réalisé autant qu'aujourd'hui. Il dit dans 1 Corinthiens 6, vous ignorez que vos corps sont les membres de Christ. Attendez, c'est quelque chose d'incroyable qui est dit là. Je répète, 1 Corinthiens 6, je voudrais m'assurer du verset. Mais c'est sûr que Paul le dit très clairement. Verset 19. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit, mais un peu avant. Ne savez-vous pas, verset 15, que votre corps, que vos corps sont des membres de Christ? Waouh! Mais est-ce que... Non, mais ça devient vraiment sérieux. Ça veut dire que ton corps, c'est pas seulement le corps de Jacqueline ou de Patrick, mais ton corps, c'est un membre. Au même titre que mon doigt, ma main, mon pied, c'est un membre de moi. Ton corps physique, c'est un membre de Christ. Ton âme lui appartient, mais ton corps est son membre. Je ne crois pas personnellement que beaucoup de chrétiens réalisent vraiment ce que ça veut dire. Parce que si on réfléchit, on approfondit ça, ça peut provoquer une vraie révolution spirituelle dans notre vie. Ton corps est un membre de Jésus-Christ. Lui, il est parti là-haut, il est assis à la droite du Père, mais sur terre, c'est ton corps qui est un membre. Toi, tu pensais que toute ta personne était un membre, non. La Bible dit que c'est ton corps qui est son membre. Ça veut dire que tu ne peux pas en faire ce que tu veux, c'est le corps de Christ. Ton corps est un membre du Christ. Il est peut-être un doigt du Christ, il est peut-être une main du Christ, je ne sais pas ce qu'il est. Peut-être est-il un pied, peut-être est-il un poumon du Christ, peut-être est-il un rein du Christ, peut-être est-il autre chose. Peut-être est-il une bouche de Christ, mais c'est un membre, ça fait partie intégrante de la personne de Christ, c'est son membre. Nous avons été rachetés à grand prix, nous savions déjà que nous appartenions plus, mais de réaliser que nous sommes vraiment, que notre corps est un membre physique de Christ. Pourquoi cela? Parce que le corps... C'est le seul réceptacle dans lequel Christ verse son onction. Souvenez-vous du psaume 133, quand il a parlé de l'huile qui coule de la tête sur la barbe, sur tout le corps d'Aaron, le sacrificateur. Nous sommes une race de sacrificateurs, nous le rappellent Pierre et Jean. L'Ancien Testament déjà, Dieu avait dit ça à Moïse, qui voulait faire de l'Israël une race de sacrificateurs, mais ils n'ont pas voulu. Et l'huile qui est sur la tête coule sur les membres. Le grand bénéfice d'être un membre du corps de Christ, c'est que l'huile qui coule sur Jésus coule sur toi. Dans la mesure où tu gardes réellement une intimité avec lui, une communion avec lui. Parce que c'est la connexion entre les membres et la tête sur le plan physique. Les médecins pourront vous dire un tas de choses là-dessus, hein, au niveau des nerfs, des ramifications nerveuses, la sensibilité, etc. Il faut qu'il y ait une connexion de la tête et des autres membres par le sang, par le système veineux, par les nerfs. Et si cette liaison est rompue à un niveau ou à un autre, t'as beau, le membre dépérit. Le membre dépérit tout de suite ou devient paralysé. Donc, il faut absolument, cette onction est en rapport avec l'intimité que tu cherches avec Dieu. Mais, attention, l'onction n'est pas l'intimité. Il y a une grande confusion dans le monde charismatique. L'onction n'est pas l'intimité. L'onction, c'est un attouchement de la présence de Dieu qui nous envahit. Mais en aucun cas l'intimité. L'intimité est quelque chose qui se construit dans le temps, par une relation serrée. L'intimité est quelque chose qui se construit dans le temps, qui évolue ou qui régresse. Elle n'est pas automatique. L'intimité est quelque chose qui demande parfois des sacrifices et des choix coûteux. Tout le monde n'a pas, c'est pas parce que tu as l'onction que tu as l'intimité. Attention, attention. Il y a une grande confusion. Ah, on a vécu un grand moment d'onction. Tant mieux. Ça ne prouve rien. Au niveau de ton cœur, avec Dieu, ça ne prouve absolument rien. Ça ne prouve pas que tu as grandi en intimité. Et le problème, c'est que les chrétiens préfèrent l'onction à l'intimité. Parce que c'est immédiat, parce que ça arrive, ça fait du bien. Et tant que tu mets en premier l'onction, ben, tu auras moins d'onction. Parce que l'onction procède de l'intimité. Une plus grande onction procède d'une plus grande intimité. Ceux qui cherchent la gloire, la gloire, la gloire, au lieu de chercher l'intimité, ben, souvent ils vont passer à côté de la gloire parce que la gloire, elle aussi, procède de l'intimité. Le sang de Christ ne produit pas l'intimité, il permet l'intimité. L'onction est une invitation à l'intimité, mais elle n'est pas l'intimité. Le corps est un récepteur de l'onction, c'est pour ça qu'il faut l'offrir à Dieu, saint, vivant, saint et agréable à Dieu, et le corps est un transmetteur de l'onction. Voilà pourquoi Jésus dit d'imposer les mains aux malades. Le corps est un récepteur et en même temps un transmetteur. Voilà pourquoi il faut l'offrir à Dieu. Parce que quand nous l'offrons à Dieu, parce que Dieu ne se contentera pas d'un corps qui n'est pas vivant, qui n'est pas sain, qui n'est pas agréable. La question qu'il faut se poser chaque fois qu'on a un culte avec Dieu, dans quel état est mon cœur, mais aussi quel état est mon corps? Est-ce que j'ai gardé mon corps dans la sainteté? Est-ce que j'ai fait ce qui est agréable à Dieu avec ma bouche? Est-ce que j'ai dit des paroles qui ont exhorté, encouragé ou cassé, démoralisé? Et là, parfois, je dirais que les gens qui ont des fonctions prophétiques font parfois de la casse pire que les autres. Parce que la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, pacifique, désintéressée, nous dit Jacques, et qu'elle amène la paix et non pas la division. Alors les gens qui ont des paroles prophétiques et qui amènent la division, s'il vous plaît, à la poubelle. À la poubelle, ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un diviseur. Parce que si c'était le cas, eh bien, il aurait dû démolir toutes les églises, sauf deux, qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. Or, même à l'église de Thyatire, qui avait un conflit avec cette femme qui se disait prophétesse, Jézabel, Dieu a donné des paroles d'exhortation et d'encouragement. Il n'a pas dit, il faut fermer l'église. Et puis même Alain, je ne sais plus si c'est Sardes ou Smyrne, il y en a un qui dit, tu es mort, quoi que vivant. Il dit, mais encourage tes frères. Et redonne. Enfin bref, On voit que l'esprit prophétique ne casse pas tout. Il n'est pas là pour casser. Il est là parfois pour pointer ce qui ne va pas, et pour redresser, et pour exhorter, et pour relever. Parce que le principe de base, c'est que Jésus n'éteindra jamais le lumignon qui fut. Il est venu au contraire pour le redonner à nouveau de la flamme. Alors, vous comprenez que le corps, donc, est un transmetteur de l'onction. J'en veux pour preuve même cette histoire incroyable du sépulcre d'Élisée. Vous rappelez, il y avait un conflit militaire entre Israël et ses ennemis. Et voilà qu'un soldat tombe dans le sépulcre où se trouvaient les os d'Élisée. Et phénomène incroyable, au moment où il a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie alors qu'il était mort. Rappelez cette histoire ? Il faut relire hein, le livre, les différents livres des rois, et Samuel, etc. Et c'est une histoire incroyable, merveilleuse, qui prouve que même après sa mort, le corps était toujours l'habitacle de l'onction qu'avait sur Élisée. Et d'ailleurs, hein, c'est pour cela que notre corps appelé à revêtir, corruptible, est appelé à revêtir l'immortalité, parce que il est resté dans l'onction. Gloire à Dieu, dans l'onction de Christ. Alors, j'ai dit pas mal de choses, comme j'ai oublié mes notes, peut-être que j'ai oublié certaines choses qui sont importantes, mais j'ai déjà dit pas mal de choses, je crois. Hein. Déjà pas mal de choses, si on les retient, c'est déjà bien. Bon, alors... Comment est-ce qu'on... Alors oui, le texte dit ensuite que, ma foi, une fois qu'on a fait ça, ce sera un culte spirituel. Certains traducteurs disent spirituel. Le vrai culte spirituel, c'est ça. Il y en a qui pensent que ce serait plus spirituel que ça, mais c'est déjà pas mal. Hein. Si tu offres tout ça, si tu offres ton corps vraiment, tu offres ta bouche, tes oreilles, etc., et tu les gardes agréables à Dieu, c'est déjà tout un chapitre, hein. Hein, de combat et de lutte et de prise de position et de choix. Et alors après il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On n'aura pas le temps aujourd'hui de développer ça de manière correcte. Je propose que je le donnerai dans un message différé, le prochain. Mais ce que je note ici, c'est que tout ça s'est rattaché à un but. Et le but est le suivant. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors j'ai entendu toutes sortes de versions à ce sujet. Certains ont compris que nous discernions ce qui est agréable pour nous et parfait pour nous. Alors peut-être, mais je ne suis pas sûr. Ça pourrait très bien que ce soit aussi ce qui est agréable à Dieu et parfait pour lui. Ce qui change tout. Hein, parce que quand même, il est question ici de connaître la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, si nous ne sommes pas obéissants dans le premier point, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ça ne va pas aller. Le discernement est lié à l'application de ce culte que Dieu demande. Et est lié ensuite au dépouillement de nos vieilles habitudes mentales, parce que nous avons tous acquis, depuis notre éducation et nos parents, et avec le système de ce monde, nous avons acquis des mécanismes de pensée, des habitudes, des fonctionnements dont nous n'avons même pas conscience. Et ils nous habitent en permanence sans que on trouve ça anormal. Mais il est question d'être renouvelé de notre intelligence en ne se conformant pas à ce moule de la pensée que nous imprime le monde. Et, frères et sœurs, ce moule est très fort. Ce moule est très fort et malheureusement, beaucoup de chrétiens fonctionnent encore, ont des fonctionnements à la moitié spirituel et à la moitié du monde. Parfois trois quarts du monde et un quart spirituel. Enfin bref, les proportions sont variables d'un individu à l'autre. Mais Dieu nous a donné deux miroirs, s'il vous plaît. La parole de Dieu, nous dit Jacques, pour que nous puissions voir notre état. Et puis un deuxième qui s'appelle notre époux, notre épouse. Pour ceux qui sont mariés. Alors, parfois on a tendance à préférer la parole de Dieu au miroir de notre conjoint. Parce que on dit, notre conjoint c'est un miroir déformant, soit il me grossit, soit il me maigrit, soit il m'allonge, soit il me... Hein, suivant ses états d'humeur, suivant ses émotions, suivant qu'il m'aime, plus ou moins. Un jour il m'aime beaucoup, et puis tout d'un coup j'ai une belle image, l'autre jour il m'aime moins, et du coup mon image est de nouveau déformée. Alors, heureusement qu'il y a le miroir de la parole de Dieu. Celui-là, il ne change pas. Il ne varie pas. Mais, néanmoins, quand on refuse d'écouter la parole, le miroir de la parole, il se trouve que Dieu nous a donné un conjoint pour parler plus fort que la parole. Et parfois, il faudrait bien de l'écouter. Surtout si ce qui est dit est conforme à la parole. Frères et sœurs, comment appliquer ces choses? On peut très bien dire, ah, mais ça, je ne l'ai jamais pas vraiment fait, mais je voudrais le faire quand même, je voudrais quand même faire des efforts pour le faire. Bruno, donne-moi la recette. Parce que mon fils me dit souvent, papa, tu donnes des très bons messages, mais tu dis jamais comment il faut faire. Alors, c'est vrai, je j'ai dit, voilà un bon miroir pour moi aussi. Nos enfants, parfois, nous reflètent aussi notre image. Hein. Ouais. Vous savez, c'est bon hein, d'être en famille, parce qu'on entend la vérité. On entend la vérité, et on ne peut pas se débiner, hein. On ne peut pas se débiner, parce que la vérité nous poursuit dans ces cas-là. Si je me réfugie aux toilettes, elle va frapper à la porte jusqu'à ce que je sorte. Si je me réfugie au garage, elle va me rejoindre dans le garage. Alors, il y a un verset que je vais commencer à pratiquer. Alors, vous allez me dire, Bruno, tu nous avais dit un jour que tu pratiquais un verset, et puis on t'a plus vu tellement le pratiquer. Un des versets clés que je vous avais donné, c'était Philippiens 4:4, réussissez-vous toujours dans le Seigneur, etc. Et je dois dire que trois mois après avoir mis en pratique ce verset, quand tous ces pépins me sont arrivés, j'arrivais beaucoup moins à me réjouir. C'est la vérité. Et il a fallu que je fasse des exploits de sacrifice, d'action, de grâce. Il fallait que je me force à me réjouir alors que je riais jaune. Et pendant 2013, j'ai souvent ri jaune. C'était pour moi un défi de retrouver la joie et la bonne humeur. Et je peux vous dire que certaines situations dans l'Église m'ont fait plus souffrir que mon cancer. Le cancer, j'y ai presque pas fait attention. Mais parce que je savais que j'étais entre les mains de Dieu, de toute façon, ce n'était pas mon problème, c'était le sien. Alors, mais par contre, ce que j'ai vécu avec les frères et sœurs, ça m'a brisé. Ça m'a littéralement brisé, lessivé. Je n'arrivais plus à avoir la joie. Je vous ai raconté que dans un voyage de vacances, ces choses-là me poursuivaient dans l'eau. Je voulais tout le temps les chasser, tout le temps. Et puis si j'avais l'impression que j'allais couler, tellement c'était lourd. Hein, jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à m'en débarrasser. Il m'a dit, retourne-toi vers elle et embrasse-les. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la paix qui est venue de nouveau, ça a pu accrocher à moi. Et là, j'ai compris vraiment une chose, vous savez, on fait parfois des raccourcis bêtes. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis, Dieu m'a dit d'aimer, donc j'aime, etc. C'est vrai. Dieu a dit réellement ça, d'aimer même nos ennemis. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on a des émotions sentimentales et des élans d'affection pour eux. Ça, c'est encore autre chose. Même pas avec votre épouse, parfois vous n'avez pas d'élan des éléments d'affection. Alors, vous voulez les avoir avec vos ennemis, mon œil, s'il vous plaît. Ne racontez pas des histoires. Bon, alors, frères et sœurs, je suis appelé à aimer les personnes, mais pas forcément à aimer et à approuver leur comportement. Dieu est pareil avec nous. Il n'aime pas quand on pêche, quand on fait des conneries, mais il nous aime toujours. Il n'aime pas notre comportement. Et il est obligé de dénoncer notre comportement, et de nous reprendre, et de nous corriger, et de nous reprendre, et de nous corriger, et de nous reprendre, parce que tout père, qui est un véritable père, corrige ses fils, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 12. Et nous, c'est pareil. Je suis dans cette église, il y a un père spirituel avec mon épouse, et je suis appelé à corriger parfois mes fils spirituels. Et ce n'est pas parce que je corrige que je n'aime pas. Mais c'est ma responsabilité, sinon Dieu me demandera des comptes. Parce que l'enjeu, dans ces cas-là, ce n'est pas moi, c'est les personnes qui dévient ou qui commettent des choses graves. Le danger, c'est leur vie spirituelle, c'est leur avenir spirituel. C'est parfois même leur salut qui est en jeu, suivant les cas. Et mon devoir, en tant qu'homme de Dieu, c'est de les avertir et de dire « je ne suis pas d'accord avec tel comportement ». Non, là vous agissez mal. Je t'aime, mais je n'approuve pas. On peut aimer quelqu'un, mais ne pas aimer son comportement. Et en n'aimant pas son comportement, on ne peut pas, à ce moment-là, plaquer l'étiquette « vous ne l'aimez pas ». Trop facile. C'est trop facile. À ça, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas mélanger les pinceaux, hein, torchons les serviettes. Il faut faire très attention avec ça. Non, parce que c'est une question aussi d'équilibre et de vivre dans la paix de Dieu. Hein. Parce qu'on vit dans la paix de Dieu quand on vit en accord avec soi-même, et si possible, autant que ça dépend de nous, en accord avec les autres. Mais ça ne dépend pas toujours de nous seulement. Quand les autres refusent de dialoguer, alors que tu veux dialoguer avec eux, que tu veux régler le problème avec eux, qu'ils refusent de dialoguer, à ce moment-là, tu es impuissant, tu ne peux rien faire. Tu peux sûrement dire « je les bénis », mais je ne bénis pas leur comportement ni leur attitude. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Alors, il y a un verset que j'ai appris, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu du mal à pratiquer ce verset de « réussissez-vous toujours ». J'ai pu le faire une fois que dans l'eau, Dieu m'a parlé « retourne-toi ». Et embrasse-les, aime-les. Prends-les dans tes bras. Et puis, à ce moment-là, ils ne m'ont plus poursuivi, je vous ai dit. À ce moment-là, c'était fini. À ce moment-là, ma joie est revenue. Et j'ai pu me réjouir dans le Seigneur. Ce qui était formidable. J'ai pu recommencer à pratiquer ce verset. Nous ne sommes pas épargnés, nous, les pasteurs. Il ne faut pas croire que nous, parce que nous sommes les pasteurs, nous sommes épargnés. C'est pas vrai. Au contraire, nous sommes plus ciblés. Plus ciblés que les autres. Ne vous trompez pas. Soyez donc... Alors, le verset que je veux vous dire, je vais vous laisser là-dessus, parce que j'ai commencé à le pratiquer de manière totale depuis à peu près maintenant un mois. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je voudrais vous le donner, parce que il est en rapport avec le message de ce matin, avec notre corps. Il se trouve dans 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31, il dit la chose suivante. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour le glorifier et que sa gloire devienne visible dans ma vie. Non pas pour que je sois apparaisse comme glorieux, mais pour vivre sa gloire dans ma vie. Alors, frères et sœurs, ça c'est un autre verset 4.4 qui passe, si tu le pratiques, tu vas passer tous les terrains les plus accidentés. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Alors, j'ai pris l'habitude au début des repas maintenant. Quand je mange avec mon épouse, je dis, Seigneur, ce repas, je vais le manger pour ta gloire. Il ne faut juste pas me présenter du foie, je n'y arriverai pas. Ou des rognons. Ça, je n'arrive pas à les manger pour la gloire de Dieu. Je veux vomir tout de suite. Mais sinon, Oui, mais ça, c'est même pas demandé, là. Voilà. Parce que si je rends tout dans l'assiette devant toi, mon cher, tu ne vas pas apprécier mon sacrifice. Frères et sœurs, quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, alors ça m'a vraiment marqué. Quoi que je fasse, fais-le faire pour la gloire de Dieu. Je conduis pour la gloire de Dieu. Quand j'ai un rapport avec mon épouse, je le fais pour la gloire de Dieu. Quand je fais ceci ou cela, quand je sers quelqu'un qui ou fais mes tâches ménagères, je le fais pour la gloire de Dieu. Et son verset correspondant, c'est, il dit à peu près la même chose. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23. Ces deux versets vont ensemble. Le fait de vouloir faire cela pour la gloire de Dieu, ça va changer votre vie. Si vous voulez tout faire pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Non, les choses les plus banales, les plus simples, les plus quotidiennes. Le faire pour glorifier le Seigneur. Mais ça, c'est possible seulement si j'ai vraiment de la reconnaissance pour lui. Ça, c'est très important. Vous savez, la reconnaissance, c'est l'acte de reconnaître ce que quelqu'un a fait pour vous. Reconnaître ce qu'il a fait et reconnaître la personne qu'il a fait. C'est ça, la reconnaissance. C'est reconnaître ce qu'il a fait de bon pour moi, de grand pour moi. Et Jésus, ce qu'il a fait pour moi, si je m'en souviens, gloire à Dieu, je vais à ce moment-là agir pour faire toutes les choses pour sa gloire. Vous savez pourquoi Dieu nous demande d'être reconnaissant? Parce que lui-même est reconnaissant. Il ne demande pas quelque chose qu'il n'est pas lui-même. Vous voulez une preuve que Dieu est très reconnaissant? Dans Hébreux 6, il est dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les œuvres que vous avez faites au commencement. C'est intéressant de noter que l'apôtre aurait pu dire Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Et on voit que reconnaissance rime avec justice et que ingratitude rime avec injustice. Très important, frères et sœurs. Extrêmement important. À partir du moment où tu n'es plus reconnaissant, tu vas être injuste dans ton fonctionnement, dans ta façon d'être et de faire. Sûr. L'ingratitude amène l'injustice. La gratitude amène la justice de Dieu dans nos vies. Quel Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Dieu n'est pas ingrat. Il se souvient de ce que tu as fait. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir de la gratitude, parce qu'il, lui, il est comme ça. Et il voudrait qu'on soit comme lui. Et à partir du moment où nous sommes, où vraiment nous veillons à ne pas tomber dans l'ingratitude, à ce moment-là, nous allons faire ce que je viens de dire avant. Quoi que vous fassiez, que vous mangez, vous buviez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est possible seulement quand on a un esprit plein de gratitude, un cœur plein de gratitude. Vous croyez? C'est très important ce qu'on dit là. Très 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 important. C'est pour ça que Jésus a pris la peine d'instituer la Sainte Cène. Parce que Jésus savait que la nature humaine est oublieuse. Si tu ne répètes pas continuellement certaines choses qui sont importantes, nos enfants vont les oublier. Si je répète, si ma femme ne répète pas certaines choses qui sont importantes pour elle, je vais les oublier. Si je ne répète pas à ma femme des choses qui sont importantes pour moi, elle va les oublier. Frères et sœurs, nous sommes des gens très oublieux. Et l'ingratitude commence aussi avec l'oubli. Voilà pourquoi Jésus nous demande de célébrer le pain et le vin. On va le faire à présent. On va le faire. Et on va le faire en prenant conscience que Jésus nous a offert son corps. Et il s'attend pareillement à ce que nous offrions nos corps. Et cette sainte scène que je vous invite à faire avec moi, c'est quelque part une forme de... C'est un appel à la reconsécration telle que Dieu la voit, non pas comme nous la voyons, nous.